exemplaire, parce que le premier nom divin, vous savez qu'une des fonctions de ce nom divin, c'est de faire exister, ou mehavé akol. Il fait tout exister. Et donc, le premier nom divin, il a fait exister, mais pour des raisons que je ne peux pas expliquer, que je ne sais pas expliquer, ce nom divin ne faisait exister que tant qu'on n'avait pas fait une faute grave. Quand on a fait cette faute grave qui est le veau d'or, ce nom divin n'assurait plus l'existence. C'est ce qu'il Hachem a dit à Moshe. Je vais détruire. Quand Hachem dit je vais détruire, ça veut dire d'une certaine manière, voilà, le clan d'Israël n'existe plus. Et donc, quand Hachem a pardonné, c'est-à-dire qu'il a fait ce que Moshe Rabbeinu nous demandait, c'est-à-dire que le clan d'Israël puisse continuer d'exister. Mais comment il pouvait exister puisque le nom divin qui faisait exister ne lui donnait plus l'existence? Cette raison, encore une fois, a donné un deuxième nom divin qui, lui, est, tout en étant le même nom, celui-là, il n'est pas sensible, si on peut parler comme ça, à la faute. Celui-là, il permet d'exister, il fait exister même quand on fait les fautes. Donc, ce deuxième nom divin, il assure la pérennité du clan Israël. Et puis, Hachem a donné une autre chose encore au clan d'Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Hachem n'a pas. Il a pardonné, mais évidemment, il reste toujours que les Bnei Israël sont susceptibles de fauter. Comment est-ce qu'on fait pour que la faute n'est pas des conséquences quand même trop graves? Alors Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, comment il faut prier dans de telles circonstances? Quand on aura fauté, il faut prier, il faut demander à Hachem de nous redonner la vie en quelque sorte. C'est vrai que le nom divin ne nous abandonne pas complètement, mais d'une certaine manière, là, le passouk de Parshat Re'eh, il dit bien que Re'eh, j'ai mis devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Donc quand on fait le mal, quand on fait une avéra, on est du côté de la mort. Alors même si on ne meurt pas complètement, mais on meurt spirituellement, et on meurt d'une certaine manière, quelque chose nous quitte, en fait. Quelque chose s'en va quand on a fauté. Comment est-ce qu'on fait pour réparer? Alors, Hachem a donné la recette de la réparation à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, quand les Bnei Israël fauteront, tu feras la chose suivante. On va désigner quelqu'un qui sera un shliach tzibour, quelqu'un qui sera un officiant, il va mettre son talit sur sa tête. Hachem a montré à Moshe Rabbeinu ça. Et il va réciter les Shlosh Esrei Midot. Il va réciter les 13 mesures de tendresse. Ils sont écrits dans la Torah. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, etc. Et moi, je pardonnerai. Cette façon de faire est très étrange. Bon, parce que ce qui vient à l'esprit quand ça, phrase de Cham, comme si il y a, bon, alors, il y a un moulin à prière, quoi. Je récite ça et puis Hachem pardonne. Alors, ça va marcher seulement si on fait tchouva. La condition, c'est que la prière, elle vient avec la tchouva. Si les hommes font tchouva, la tchouva toute seule va pas complètement réparer. Il va falloir appliquer cette règle. La récitation de ces 13 midot, qu'on appelle midot de rachamim, je traduis par les 13 mesures de tendresse. Dans ces mesures de tendresse, c'est une liste de façons d'Hachem, dans la façon dont Hachem gouverne dans la tendresse le peuple Israël. Il est Hanoun, il est Rahoum, il est Rechapaïm, etc. Trois choses, les louchot, le nouveau Shem Hashem et la tfila avec les Shlosh Esrei Midot. Dans les Shlosh Esrei Midot, il y a aussi la deuxième occurrence du nom divin, puisque les Shlosh Esrei Midot, elles commencent par deux fois le Shem Hashem. Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun. Le premier Shem correspond, c'est le Shem qui fait exister avant la faute. Et le deuxième, c'est celui qui fait exister après la faute. Après que Moshe Rabbeinu soit redescendu et qu'il ait rapporté les louchot, tout de suite après, il y a eu l'ordre de collecter les matériaux nécessaires à la construction du Mishkan et l'ordre de construire le Mishkan. Et ça a commencé à Sukkot. Donc c'est juste après Yom Kippour. Les deuxièmes louchot, tout en étant des louchot sur lesquels Hachem a écrit tout ce qu'il y avait sur les premières, elles sont quand même très différentes des premières louchot. Parce que dans les premières louchot, ce qui était écrit, c'est-à-dire gravé sur les louchot en question, dans les louchot, puisque c'était de part en part, qui est écrit, c'est ce qu'on connaît, c'est Aseret HaDibrot, mais on pouvait lire sur ces louchot, on pouvait lire tout ce qui allait devenir par la suite Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh était accessible, immédiatement lisible. Non, pas tellement balpé, donc lisible sur, à partir de ce qui était écrit sur les premières louchot. Pas très bien comment, mais en tout cas, c'était comme ça. C'est-à-dire que la Torah chez balpé ne demandait pas d'effort. Pas plus que la Torah écrite, il suffit de lire. Dans les deuxièmes tables, on ne pouvait pas lire la Torah Sheba'al Peh sur les louchot. La Torah Sheba'al Peh, il faut la produire. Et on peut la produire seulement avec Amal. On dit, Im bechukotai telechu, shetiyu amelim batorah. C'est-à-dire, il faudra bosser. Il faudra beaucoup travailler pour produire la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Cette Torah orale, elle pose une question. Comme vous savez, dans la Torah orale, il arrive que les Chachamim soient en opposition les uns avec les autres, ou l'un avec l'autre. La Machloket très très connue de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur le fameux tanour, le fameux four dont on il y avait une marloquette, est-ce qu'il est, on va dire comme ça, est-ce qu'il est pur ou impur? Rabbi Eliezer disait une chose et Rabbi Yoshua disait le contraire. Bon, c'est possible que les Chachamim soient pas d'accord sur la Torah. La Torah, elle a été dite très clairement. D'où vient que il y a une marloquette? Où est-ce que c'est, comment c'est possible? La Torah, c'est la vérité, non? Il n'y a pas de vérité. Alors, ça se passe comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé de créer l'homme, les malachim, les anges du service, se sont partagés en deux groupes. Les uns disaient, il ne faut pas créer cet homme, parce qu'il est tout entier mensonge. Et les autres disaient, il faut le créer parce qu'il est capable de chesed. Il est capable de générosité. Et donc, il faut le créer, il faut le créer. Et donc, il y avait une opposition. Hachem devait trancher. Mais comment trancher entre le Emet et le Chesed? Deux midot. Comment est-ce qu'on peut trancher entre les deux? Alors Hachem a résolu le problème. Il a pris le Emet et il l'a jeté à terre. Il a dit, Emet, me'eretz titzmach. Désormais, le Emet, je veux qu'il croisse, qu'il pousse de la terre. Je veux que le Emet soit une production humaine. Et par conséquent, bien sûr, comme production humaine, les hommes sont différents, ils réfléchissent différemment, ils ont d'autres idées, ils ont des caractéristiques, etc. Eh bien, le Emet qui vient de la terre, le Emet des hommes, ce sera un Emet relatif. Mais Hachem a décidé que c'est cet Emet-là qu'il veut. Il ne veut pas du Emet absolu. Il a abandonné l'idée d'un Emet absolu. Donc, si vous voulez, il a tranché en faveur du Chesed qui lui va rester qui est une mida très très élevée, mais qui aura aussi sa formulation humaine. Bon, le chesed, il va être représenté, si on peut parler comme ça, par Avraham Avinu. Mais le emet de la Torah, ça devient un, la Torah orale, donc, ça devient un emet relatif. Le maître, c'est, dans certains cas, comment Rabbi Akiva voit la chose. Bien entendu, Rabbi Akiva, il dit pas les choses comme ça en l'air. Il les dit fort de tout ce qu'il a déjà entendu, et quand il parle, éventuellement, il est contredit. Les autres lui posent des questions, et éventuellement, on pourrait imaginer qu'il y a des situations où, effectivement, il ne va pas gagner. Peut-être il va souvent gagner quand il est quand ils sont un contre un, mais quand il est un contre plusieurs, eh ben voilà, il ne gagnera pas. Dans l'exemple du four en question, Rabbi Eliezer, qui était un très très grand personnage, très très grand maître, il pensait les choses d'une, il pensait ce qu'il pensait sur le four en question. Mais les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et quand on a passé au vote, les gens ont voté contre lui, ils ont voté selon l'opinion de son opposant qui était donc Rabbi Yehoshua. Alors Rabbi Eliezer, il a pris le ciel à témoin quasiment. Et vous connaissez l'histoire, il a dit, mais si la halakha est comme je le dis, alors que le ruisseau remonte à sa source, que les murs du Beth Amidrash penchent, etc. Mais ça n'a pas du tout impressionné les autres. La Gemara dit, Amad Rabbi Yoshua al-Raglav. Rabbi Yoshua s'est levé et il a dit, Lo bashamayim hi. La Torah n'est plus au ciel. La Torah, elle nous a été donnée. Et nous fonctionnons avec la règle de la majorité. Et majoritairement, nous ne sommes pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, le ciel peut faire tout le cinéma qu'il veut, ça ne nous impressionne pas. La halakha, c'est nous qui la décidons à la majorité. Et quand on demande à Hachem, bon, je sais pas, il y a toujours un reporter qui pose des questions, demander à Hachem ce qu'il pense. Hachem a dit, Nitzkuni banaï, les enfants ont vaincu. Content. Il a créé un monde dans lequel il a donné à ses enfants la possibilité de le vaincre, bien sûr. Et donc, il faut expliquer comment il se peut qu'il y ait des machloquettes, et on peut une explication, c'est celle que je viens de vous donner, c'est que le Hémet. La Torah, c'est Emet, bien sûr. Mais c'est un Emet avec lequel les hommes vivent, et cet Emet-là, il est relatif. Il faut s'habituer à ce que, quand on dit, tout le monde connaît l'expression Elouvé, Elou divré, Elokim Chaim, les paroles de l'un comme les paroles de l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Et comme donc, ça veut dire dans la tête, ce Dieu vivant, il dit tout et son contraire. Oui. Paroles d'Elohim Chaim, c'est des paroles qui sont des paroles de Torah Shebaal Peh. Torah Shebaal Peh, c'est le produit de la réflexion basée sur des psukim. Quand on apporte une démonstration dans le monde de la Torah, alors on peut s'appuyer sur un verset. Donc, quand vous faites une démonstration philosophique ou autre, etc., vous ne pouvez pas vous appuyer sur un verset de la Torah. Mais dans la Torah, on s'appuie sur un verset. Et on décide d'après une svara. On dit, voilà, bon, j'ai une svara. Et si j'ai une svara, comme dit la Gemara, svara, ça veut dire si j'ai réfléchi et que j'ai une théorie, qui tient la route, qui a été contrebattue finalement, etc. Eh bien, cette svara, elle nous permet de faire l'économie d'un passouk. Ça veut dire que la Gemara, elle demandera, mais j'ai une svara, pourquoi tu m'amènes un passouk? J'en ai pas besoin. Et ce passouk-là, il va falloir l'interpréter autrement, parce il fait double emploi avec. Avec la Svara. Y a un pouvoir qui a été donné aux hommes. Hachem m'a donné un pouvoir absolument incroyable aux hommes. Des fois, ça nous joue des tours, en fait. Puisqu'on parle de Yom Kippour, il faut dire que la chose la plus connue de Yom Kippour, c'est le fameux Kol Nidre. Ce Kol Nidre nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Dans Kol Nidre, le mot Kol vers tout, Nidre c'est le pluriel de Neder. En araméen, Kol Nedarim. Et on vient dire ici qu'on demande l'annulation de tous les vœux. Dans les goïms, pendant des siècles, ils nous ont accusés d'être des voleurs. Parce qu'ils disaient, les Juifs, ils font des serments, ils s'engagent, et ensuite, ils annulent leurs vœux. Donc, ils nous roulent. Ça nous a fait beaucoup de mal. Mais il faut expliquer. La Torah, elle a fait quelque chose d'absolument incroyable. La Torah, elle a donné à l'homme une puissance de sa parole. Un homme peut dire, c'est vrai qu'il faut utiliser une certaine formule. Mais il peut dire qu'il s'interdit des pommes vertes. Et cet interdit des pommes vertes, on pourrait penser, l'homme pourrait penser, c'est moi qui me le suis interdit, je peux me le permettre. Et donc, si j'ai les raisons de vouloir manger une pomme verte parce que mon médecin m'a dit que c'était bon pour la santé, ou que j'étais peut-être, disons, c'était nécessaire pour ma santé, moi je vais le manger, je vais me permettre de manger. Finalement, tout s'interdit, c'est moi qui l'ai inventé. Je peux le défaire. Eh bien, pas du tout. Si tu manges la pomme verte en question, tu es aussi fautif que si tu manges une côte de porc. Et comment on peut mettre la parole humaine à la même hauteur que la parole divine. C'est pourtant ce que la Torah fait. La grande différence, c'est que la parole divine, on ne peut plus, on ne peut pas l'annuler. Le paysan, il ne peut pas aller chez le rabbin et lui dire, tu sais, c'est le... Il faut que je rentre les foins et je dois faire ça le samedi parce que le dimanche il va pleuvoir et etc. Je peux pas. Le rabbin peut pas lui dire rentre chez toi, tu peux rentrer les foins. Ce que les goyim peuvent faire avec le curé de la paroisse, le curé il peut demander, il peut leur permettre de travailler le dimanche. Mais le rabbin, il ne peut pas. Voilà, c'est ça. Ils s'imaginent, ils vivent avec des permissions. Alors, en vérité, la grande différence, c'est que la parole humaine, elle peut, oui, être annulée. C'est-à-dire que si j'ai les bonnes raisons, je peux aller devant un tribunal et expliquer que j'avais, quand je me suis engagé, quand je me suis interdit les pommes vertes en question, je n'ai pas pensé qu'un jour mon médecin me dirait que c'est fondamental que j'en mange. Si j'avais su ça, je ne me serais jamais engagé. Alors le tribunal va lui permettre Ben, je veux dire, moutard lard, veux dire, il t'est permis de manger. On annule le vœu. À partir de maintenant, tu n'es plus engagé. Donc, il y a une possibilité. Et c'est ce que nous faisons la veille de Kippour. Kol Nidre, on demande à Hachem d'annuler les vœux que nous avons faits. Pourquoi? Parce que nous craignons d'avoir fait des vœux et de ne pas les tenir, ne pas les avoir tenus. Donc, nous demandons à les annuler. Par peur, parce que justement, c'est tellement important de tenir sa parole. Bon, la Torah, elle dit explicitement, on n'a pas le droit de pas tenir sa parole. Tellement important que on craint. En général, c'est pas vraiment une crainte, parce que pour que ça soit un vrai vœu, il faut utiliser la formule. Alors, en général, on n'a pas utilisé la formule, mais il y a quand même lieu de penser que c'est peut-être un vœu, etc. Et pour être sûr, il vaut mieux l'annuler. Et d'ailleurs, après avoir demandé l'annulation à Hachem, on fait une déclaration par laquelle on annonce que si jamais dans l'année qui vient, je fais un vœu, j'oublie que c'est pas bien de faire un vœu, alors depuis maintenant, dès maintenant, j'annule ce vœu. C'est-à-dire que je déclare, il faut pas me tenir, il faut pas me croire quand je m'engage à quelque chose, parce que c'est une erreur. Alors, on règle le problème. Parce qu'on a peur des conséquences de celui qui tient pas ses paroles là. Même la Gemara, il y a un traité du Talmud qui est consacré aux vœux. Il y a des endroits où on n'utilisait pas ça, on avait peur. À l'époque des Gaonim, on n'étudiait pas cette Masechet. Ils avaient trop peur. Parce qu'il y a des circonstances où dans ce cas-là, ça marche, dans ce cas-là, ça marche pas, etc. C'est trop compliqué. On avait peur et donc on n'étudiait même pas ça. Donc, puisque on parle de Kol Nidre, puisque c'est le début de Kippour. Pardon? Non, mais tu peux aussi interdire à quelqu'un d'entrer, tu peux lui interdire d'utiliser ta bicyclette. Tu fais un vœu, par vœu, tu lui interdis d'utiliser ta bicyclette.
Mais pas nos engagements.
Pardon?
Pas nos engagements.
Si mon engagement, si je m'engage, je fais un vœu, je peux annuler ce vœu. Si on peut annuler ce vœu, je peux annuler le côté. C'est pour ça qu'il faut écrire un contrat. C'est un contrat, on ne peut pas l'annuler. C'est une parole, un engagement par parole, ça peut s'annuler. Alors le problème, c'est effectivement, il faut voir si en annulant, tu laisses pas quelqu'un, il faut regarder. Parce qu'éventuellement, il dit que le tribunal peut le permettre, mais le tribunal peut aussi dire, c'est pas une bonne raison pour annuler ton vœu, tu es obligé de tenir ta parole. C'est pas une chambre d'enregistrement, le tribunal de l'annulation des vœux. Donc,
Oui.
C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui annulons. On demande au tribunal d'annuler. Donc, le tribunal peut dire non, nous ne pensons pas que la raison que tu invoques est une bonne raison pour annuler le vote. Un contrat, il ne faut pas annuler le contrat. Alors, ça, sauf selon les règles qui sont écrites dans le contrat. Dans un contrat, on explicite comment on peut se dédire, mais éventuellement, ça coûte de l'argent, évidemment, ou ça peut avoir des conséquences X ou Y. Mais un contrat aussi, tu t'engages, s'engage à. Oui, ton engagement, tu peux être dans certaines circonstances obligé d'annuler le contrat. Il y a des règles. Est-ce qu'on a prévu qu'on puisse annuler ce contrat parce qu'il a plu ou parce que son arrière-grand-mère est morte ou je sais pas moi. C'est toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes pour écrire un contrat, pour avoir tenu compte de tout. Celui qui sait pas, il doit pas écrire un contrat parce que il risque de mal le formuler. D'ailleurs, c'est tout un art de savoir lire un contrat et en faveur d'eux ou contre celui-là, etc. Trouver la petite bête, et comment est-ce qu'on peut. Hein? C'est le travail. Ah oui, bien sûr. Le tribunal aussi va juger. Est-ce que je vous ai dit? Est-ce que l'argument qui est présenté est un argument qui justifie que tu annules ton vœu? On ne veut pas que les gens prennent ça à la légère. Mais dans la Gemara, on dit le mieux, c'est de ne pas faire de vœux. Les pommes, c'est moi vis-à-vis de moi, mais si c'est par rapport à une certaine personne, je me suis engagé à venir balayer ta cour tous les lundis, jeudi. D'accord? Je me suis engagé. Bon, et maintenant, il se trouve que je peux pas parce que il fait mauvais et je suis malade, etc. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une raison pour, c'est un vœu. Donc, il faut y aller, malade ou pas, tu dois y aller. Hein, tu peux aller au tribunal et dire, voilà, j'ai pas prévu que je serais malade, je me suis pas engagé à le faire, même si je suis malade. Et à ce moment-là, le tribunal va dire, éventuellement, il va juger, oh, c'est bon, c'est vrai que ta maladie, elle t'empêche vraiment d'y aller. Et si quelqu'un dit, je peux pas le faire parce que je suis malade, mais le tribunal peut dire, mais ta maladie t'empêche pas d'aller balayer la cour. Non, non, j'ai pas ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il y a la parole et il y a un contrat, c'est deux choses différentes. Alors, si tu veux être plus sûr, c'est un contrat, parce que dans le contrat, on a tout de suite explicité dans quel cas on peut annuler le contrat. Non, le mariage, dans le Ktouba, il n'est pas marqué dans quel cas on peut divorcer, dans quel cas la femme est libérée parce que son mari est vraiment mort. Ça, c'est pas écrit. C'est écrit quelles sont les conséquences d'un divorce ou d'une mort du mari. Conséquences financières pour la femme. Et c'est aussi marqué tout ce que l'homme doit faire pour sa femme. Ce que la femme doit faire pour l'homme, c'est dans la halakha. Mais dans la Ktouba, c'est.
Par rapport
Oh, si j'ai enseigné pour l'avoir, ça n'a rien à voir. Oui.
à
Donc, une femme accepte des kiddushin, elle aliène sa liberté. Non, mais c'est-à-dire, on s'engage. Là, elle accepte d'être interdite à tout autre homme que son mari. Dans la Torah, c'est jamais marqué Mekoudeshet. Dans la Torah, c'est marqué Meouresset. Les Chachamim, ils ont inventé ce lachon de Kiddushin, qui est devenu le lachon que tout le monde dit. Aujourd'hui, si quelqu'un disait disait à une femme, au moment de la bague, il lui dit, Areat Meouresset li betabazu kidat, elle est sa femme, hein. C'est de la chaîne de la Torah, bien entendu. Mais aujourd'hui, on utilise le Kudeshet, qui est le langage des Chachamim. Mais pourquoi ils ont utilisé ce langage-là? Parce que quand on est makdish quelque chose, quand on sanctifie quelque chose, par exemple un animal, du coup cet animal-là, il est interdit de jouissance. Personne ne peut en tirer aucune jouissance. Bon, il est réservé au Hekdesh, comme Korban. Donc, quand on met de la Kdusha sur quelque chose, en général, c'est des objets, des animaux, cette chose-là devient interdite. Et étant donné que la femme, quand elle accepte les Kiddushin, qu'elle accepte la bague que l'homme lui propose, elle accepte de lui donner l'exclusivité du mariage. Ça veut dire que désormais, elle ne peut plus épouser qui que ce soit d'autre. Tant que ce mariage n'a pas été dissous. Tant qu'elle n'a pas reçu un guet ou que son mari est mort. Ce sont les deux seules façons pour une femme de sortir de cet état de épouse. Si, c'est un kinyan. Il y a un kinyan parce que l'homme acquiert par exemple le fait que désormais, si la femme elle trouve quelque chose, c'est au mari en fait. Comme c'est lui qui a l'obligation de la nourrir, on ne peut pas lui dire tu gardes pour toi tout ce que tu trouves, tout ce que tu gagnes, et lui il t'entretient. La femme peut très bien dire, ça existe, je connais personne qui l'a fait, mais. Ça existe, une femme peut très bien dire, t'as pas besoin de me nourrir. Moi, je garde mon. Elle a un super job. Je préfère garder mon salaire, du job, et t'as pas besoin de me nourrir. C'est-à-dire qu'elle va apporter sa quote-part au fonctionnement de la maison. Voilà. Ils vont manger ensemble, et ils vont acheter le kilo d'épinards qu'ils vont acheter. Il sera. Payer moitié, moitié par l'un et par l'autre. Et à ce moment-là, elle garde. Elle peut devenir très riche. Oui, puis, par exemple, beaucoup plus riche que son mari. Curieusement, ce n'est pas interdit du tout. Et ça ne met pas en cause le mariage. Et en général, ce n'est pas comme ça. Sauf qu'en réalité, souvent, les gens se marient. À part ça, en séparation de biens, pour des raisons de prudence, il y a un qui fait du business, je ne sais pas quoi. Et donc, pour des raisons de prudence, ils sont effectivement en séparation de biens. Donc, normalement, alors ça devrait réduire tout ça. Voilà, il y a toutes sortes de formules. Quand ils achètent un frigo, frigo, il appartient à moitié-moitié. À l'homme et à la femme. Tout ça n'a pas d'importance quand on vit ensemble. Mais le problème se pose quand on vit plus ensemble. Même pas obligatoirement négativement, mais s'ils sont moitié-moitié, les enfants, ils vont, si le père meurt, les enfants vont hériter du père, mais seulement de la moitié. Bon, la femme, elle continue de garder ça, la partie qui est la sienne. Seulement, au lieu d'être associée à son mari, elle est associée à ses enfants, qui eux ont hérité de leur père. Ils ont hérité de la moitié en question. Qui était que la paix? Oui, comme la paix. Bon, ça nous a amené un peu loin du Yom Kippour, mais bon.
C'est important de la parole, de relier à la création.
Bon, alors. Oui, bien sûr. Alors, ce Yom Kippour, là, on a dit, il y a cette procédure-là de la prière quand on a fait une faute, comment on prie, etc., qui a l'air un peu étrange. Étrange parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'automaticité. Tu récites ça. Alors, nous, quand on... Dans les Shloshe Esrei Midot, on a intégré les deux noms divins, on a dit, on a vu ça. Et dans la prière de Yom Kippour, pour nous, nous prions pour Yom Kippour, puisque aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a. Du temps du Beth Amikdash, le Kohen Gadol faisait tout un travail, toute une avoda, avec les boucles, le bouc émissaire, etc. Là maintenant, nous, on a la tfila, mais la tfila de Yom Kippour, à part le fait qu'il y a les trois prières qu'on fait tous les jours, Arvit et Shacharit et Mincha, il y a un Moussaf qu'on fait tous les Yomim Tovim, et comme c'est un jour de jeûne de Minatora, il y a une prière supplémentaire qui s'appelle Neila. Mais ceci mis à part, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prière du Yom Kippour? Alors, dans la prière du Yom Kippour, en fait, ce qu'on ajoute à la tfila ordinaire, c'est de réciter les Shloshe Esrei Midot. Dans le Noussar Sfarad, sur la totalité de Yom Kippour, c'est-à-dire le soir et la journée de Yom Kippour, en tout, dans le Moussar Sfarad, on dit 26 fois les Shloshe Esrei Midot. Et comme on ne peut pas se contenter simplement de réciter les Shloshe Esrei Midot, alors il y a toutes sortes de piyutim, toutes sortes de poèmes, suppliques, etc., qui ont été écrits et qu'on insère entre les mentions. Entre la récitation des Shloshe Esrei Midot, des Sfirot, des Piyutim, des... Et c'est ça la prière de Yom Kippour. Donc, on fait vraiment ce qu'Hachem a dit, réciter les Shloshe Esrei Midot.
Par la récitation des cloches et des sonnettes, on arriverait à reconstruire avec la chaîne les liens qu'on aurait perdus par les fautes.
Oui, parce que Hachem a cette mida de rachamim, cette mida de tendresse. La tendresse d'Hachem fait qu'il nous accueille encore, bien que nous soyons mal conduits à son égard. D'accord, on respecte pas sa loi. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors bon, à cause de la tendresse divine, et parce qu'il a, ça c'est la résultante de l'intercession de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a demandé le pardon, il a obtenu tout ça. Il a obtenu que désormais, il y aura une façon d'obtenir le pardon. Alors, je vous ai dit, ça marche avec la tchouva. Mais il y a une chita qui n'est pas la halakha, Mais il y a une chita qui dit que Yom Kippour est mechaper même si on ne fait pas tchouva. Le jour lui-même a cette puissance de donner la kapara. S'appelle Itsumo Shel Yom. L'essence du jour donne la kapara. Mais je vous rassure tout de suite, il faut faire tchouva. Alors la tchouva, justement, elle est caractérisée par le fait que pour faire tchouva, on pourrait dire, je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, que pour certains, il y a une mitzvah de faire tchouva. Mais Rambam, par exemple, il pense que ce n'est pas une mitzvah de faire tchouva. Pourquoi ce n'est pas une mitzvah? Parce que qu'est-ce qu'elle pourrait dire à la tchouva? Pour faire ce qu'Hachem a dit de faire? Mais il l'a déjà dit qu'il fallait le faire. Donc ça n'a pas obligatoirement du sens de dire qu'il y a une mitzvah, de dire une deuxième fois qu'il faut faire les mitzvot. Qu'il faut laisser un coin de ton champ, qu'il faut pas prêter avec de ribite, etc. Et c'est déjà écrit dans la Torah qu'il faut pas. Donc il n'y a pas une mitzvah, mais il y a une puissance, il y a la possibilité de faire tchouva. Et donc on te dit, la tchouva, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit faire toute l'année. Chaque fois que quelqu'un fait une faute, quand il prend conscience de sa faute, s'il veut se rapprocher d'Hachem et diminuer la distance qui s'est faite entre Hachem et lui à cause de la faute, suite à la faute, il faut faire tchouva. Pour faire tchouva, après avoir pris conscience de la faute, avoir bien compris quelle faute on a faite, il faut regretter d'avoir fait cette faute. Il faut dire que se dire et dire, ben, voilà, je voudrais bien ne pas avoir fait cette faute de telle sorte que maintenant je ne sois pas éloigné d'Hachem. On a déjà dit, n'est-ce pas, que étant donné que la Torah, elle a mis devant nous, Hachem a mis devant nous, la vie est le bien et la mort est le mal. Ça veut dire que quand on fait le mal, quand on fait une avéra, on est mort un peu. Alors on est spirituellement un peu mort. Un peu ou beaucoup selon la faute. Donc, en particulier, on est éloigné d'Hachem. On est éloigné de la source de vie. C'est ça que quand on dit qu'on est mort. Et donc, je voudrais bien ne pas être dans cette situation. Et troisièmement, ben, je vais prendre des mesures pour ne plus retomber dans ces ornières-là. Donc, il faut faire une déclaration de ce genre-là. D'abord, dire qu'on a fauté, regretter et prendre des mesures dans le futur. La déclaration, j'ai fauté, c'est une déclaration, une confession qu'on fait devant Hachem seul. Cette confession-là, elle est, a priori, elle ne doit pas être entendue par d'autres. Comme on ne veut pas qu'elle soit entendue par d'autres, et que les gens sont suffisamment proches les uns des autres dans la synagogue, que c'est impossible que ce ne soit pas entendu, si quelqu'un fait sa confession, l'autre, le voisin, il ne peut pas s'empêcher d'entendre. Alors on a décidé qu'on allait faire une liste des fautes et tout le monde va réciter cette liste. Et chacun dans sa tête, il se dira, quand il dira la faute qui le concerne, il pensera, ça me concerne. Et quand il dira que j'ai tué tel, j'ai tué, ah, ça me concerne pas, j'ai tué personne. Mais il y a un passouk dans le Navi Yirmiya, c'est au chapitre 2, verset 5. Le Navi, il dit, Hachem, c'est Hachem qui parle, Hachem dit, je vous jugerai pour avoir dit, je n'ai pas fauté. On entend dans ce que dit le Navi, à la limite, c'est bien plus grave que la faute elle-même. C'est de dire, j'ai pas fauté. C'est-à-dire, il faut faire très attention de ne pas diminuer les fautes qu'on a faites. Il ne faut pas s'accuser de choses qu'on n'a pas faites. Mais quand on a fait une faute, il faut pas chercher à la diminuer. Parce que tu peux pas, quand tu fais tchouva sur la faute diminuée, t'as pas fait tchouva sur la faute que tu as réellement faite.
Ça va être dans les études, mais si on veut voir un lien, on pourrait faire, même si on n'a pas accompli par exemple vraiment une sorte de gymnase, mais c'est là qu'on pense que ce qu'on aurait pu dire et qu'on n'a pas dit, ça aurait permis de faire des personnes de vivre différemment, de se protéger, mais que tout ça ne s'apparenterait pas à quelque chose qui relève
Bien compris.
de. Quand on dit qu'on n'a pas, par exemple, tué, ne pas se sentir concerné. On
Mais je dis pas que tu n'es pas concerné, hein. C'est ton problème.
pourrait
Oui, bon, ben ça, quand tu réfléchis, quand on réfléchit avant. De faire, il y a la récitation de ce qui est écrit, etc. Mais on est censé réfléchir avant. Réfléchir, faire le bilan, de faire la liste pour soi-même d'abord, avant de la. Ça sera très important de l'exprimer. Le vidouille, la confession, elle doit être exprimée. Bon, le problème, aurait pu être résolu si on pouvait faire la vidouille, le vidouille dans sa tête, alors je le fais dans ma tête et le voisin, il n'entend rien. Mais la mitzvah de vidouille, elle exige que ce soit exprimé. Parce que pour prendre de la distance avec quelque chose, il faut l'exprimer. Donc, elle est en soi, on n'arrive pas à prendre vraiment la distance correcte. Et donc, je dois réfléchir à l'avance pour savoir qu'est-ce que j'ai à réparer, qu'est-ce que j'ai fait de travers, etc. Et à ce moment-là, tu dois réfléchir, est-ce que ce que j'ai fait là, les Chachamim, ils disent que si on fait blêmir quelqu'un, c'est comme si on l'avait tué. D'accord? Ils te disent pas qu'il n'y a pas de tribunal qui va condamner quelqu'un à mort, même s'il y a des témoins qui diront que Toto, il a fait blêmir Titi par des paroles ou par des gestes, ou, etc. Mais c'est vrai que mettre quelqu'un dans l'embarras au point de le faire blêmir, c'est le sens est retiré, donc quelque part, c'est vu comme si ça, c'est de l'ordre du meurtre. OK, alors si quelqu'un sait qu'il a fait ça, alors donc il va pas dire j'ai pas tué, mais il va dire voilà, alors il faudra dire j'ai fait blêmir quelqu'un. Et Chazal disent que c'est tel extrêmement grave que on peut parler de meurtre à ce sujet-là. Donc on va faire tchouva là-dessus. Donc tu as raison, si quelqu'un réfléchit et qu'il se dit, ben voilà, j'ai fait blêmir intentionnellement, etc., quelqu'un, ou bien je l'ai fait blêmir, mais je ne voulais pas, alors là, tu es volontairement et tu es par accident.
Je ne sais pas si J'aurais pu lui permettre de...
Oui, mais là, il faut se réfléchir. Est-ce que cette Torah, elle risque pas de le rendre mézid alors qu'il était seulement shogeg? Bon, pour l'instant, il faisait la faute. Il n'avait pas conscience de la gravité de la faute. Maintenant, quand tu lui expliques la faute, la gravité de la faute, il continue de le faire. Il a mis dans une situation, il devient vraiment grave. Donc, il faut regarder, est-ce que, quelles sont les conséquences de la tofracha que tu vas faire? Et souvent, en plus, si tu sais que la tofracha, elle va pas être vraiment reçue, pour réfléchir à deux fois, parce que l'autre, il peut réagir et très mal réagir, et peut-être que c'est l'ifnei iver de faire une tofracha à quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas capable du tout de le recevoir. Pour réfléchir, là, pour regarder la halakha, réfléchir. Le vidouille, en fait, il est relativement facile à faire, il faut le prononcer, mais effectivement, il nécessite une préparation en amont. Alors aujourd'hui, il y a des vidouilles qui sont, il y a tout de même, ça vient, il y a longtemps, il y a un vidouille de Rabbeinu Nissim, qui est un bidouille du Moyen-Âge, où il y a une liste faramineuse. Il y a des gens qui lisent ce bidouille, qui font ce bidouille-là aussi. Aussi. C'est deux possibilités, où je fais la liste, mais est-ce que si je fais toute une liste, est-ce que j'ai le temps de réfléchir à ce que je dis? Ou bien, peut-être qu'il vaut mieux en dire moins, mais avoir bien pesé ce qu'on est en train de confesser, en quelque sorte. C'est chacun selon sa nature. Donc, il y a cette mitzvah en permanence de bidouille. Et le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'à Kippour, on fait un bidouille dans la tefila, prévu de faire un bidouille. Mais on parle ni de regret, ni de prendre des résolutions pour l'avenir. Donc c'est étonnant. C'est-à-dire que le vidouille de Kippour, il n'est pas du tout le même que le vidouille de l'année. Le vidouille de l'année nécessite regret et prise de décision. Celui de Kippour, c'est simplement Khatanu. Sauf qu'il y a une chose qu'on dit, c'est que on n'a pas la chutzpah de dire qu'on n'a pas fauté. Par rapport à ce qu'a dit le Navi Yirmiya, il dit que ce qui serait peut-être même plus grave que la faute elle-même, c'est de dire qu'on n'a pas fauté. Pourquoi est-ce qu'à Kippour, on n'a pas besoin? C'est parce qu'à Kippour, on est dans une ambiance complètement différente. Évidemment, vous voulez, il y a regret dans le monde dans lequel à Kippour, on se trouve, évidemment qu'il y a regret et prise d'engagement de ne pas retomber dans les ornières en question. Nous n'avons pas besoin de l'exprimer. Kippour, c'est un Yom Tov. La différence entre Yom Tov et Shabbat, le Shabbat est, comme on le dit, c'est Me'en Olam Haba. C'est-à-dire, à Shabbat, on est un petit peu dans le monde à venir. Mais on est dans ce monde à venir parce qu'Hachem a fait Shabbat et que le Shabbat nous tombe dessus, si vous voulez. C'est Hachem qui est Mekadesh à Shabbat. C'est pas nous. Nous, on fait Kiddush, mais c'est Hachem qui est Mekadesh, qui sanctifie le Shabbat. Yom Tov, vous savez, c'est nous qui sanctifions le jour en question. Alors, Yom Tov, nous avons à fabriquer une relation qui n'est pas de Olam Haba, mais qui est dans le monde de la vérité, en quelque sorte. C'est nous qui devons sanctifier. Mais Kippour, c'est encore autre chose. Kippour, c'est un monde dans lequel on est C'est un monde où, d'une certaine manière, à un certain moment de Yom Kippour, on est un peu comme des anges. Mais comme des anges, parce que les Inouïm, les désagréments qu'on s'inflige ce jour-là, de pas manger, pas boire, etc., les cinq Inouïm nous mettent dans une situation proche. Les anges non plus, ils mangent pas, enfin, ils mangent pas comme nous, ils boivent pas comme nous, etc. Et puis, en général, les gens sont, souvent, ils sont en blanc, ils sont pas, ils sont en basket, ou ils sont en espadrilles, ou ils sont nu-pieds, etc., ou en chaussettes. Donc on est un peu détaché du monde matériel. Et donc on est un peu comme des anges. Un peu comme dans le monde des anges, dans le monde d'une super vérité, d'une espèce de vérité plutôt absolue presque. Parce que c'est Yom Tov, mais ce Yom Tov-là, il est appelé Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, si on devait le dire, c'est le Shabbat des Shabbatot. C'est un Shabbat pour des Shabbatot. Mais dans Shabbat, la notion de Shabbat, c'est un Shabbat qui est donné par Hachem. Et là, nous, c'est Yom Tov. Dans la tfila, on va dire que le Kadesh Israël veYom et on ne dit pas que on dit pas le Kadesh à Shabbat. Voilà. Si c'est Shabbat, c'est autre chose. Mais c'est Yom Kippour lui-même, les halakhot sont comme les halakhot de Shabbat, parce que il n'y a pas les permissions de cuire, etc., qui existent sur le Yom Tov. Donc c'est appelé Shabbat, mais c'est un Yom Tov. Donc c'est un peu comme si on fait deux choses à la fois, quoi. À la fois, c'est nous qui faisons les choses, et à la fois les choses se font au-dessus de nous, ça nous tombe dessus un peu. Ce jour-là, c'est un jour tout à fait extraordinaire. C'est un jour impensable. Si vous voulez, c'est tellement impensable que ce qui vaut tous les jours ne vaut pas Kippour. C'est-à-dire, le jour de Kippour, le Satan, il n'a pas le droit de fonctionner. Il est au chômage.
Brave. S'il vous plaît. Ça reste un Yom Hadin?
Alors, c'est un jour de jugement parce que ce jour-là, on reçoit le jugement. On reçoit le jugement, c'est-à-dire ce jour-là, comme on dit, la khatima, le sceau, les décisions sont scellées. Elles étaient éventuellement en suspens depuis Rosh Hashanah. Elles sont scellées à Kippour. Donc c'est en ça que c'est un Yom Hadin. Mais c'est un jour où on faisait une fête incroyable. D'accord? Aujourd'hui, on chante, il n'y a plus que Marie Cohen qu'on chante. Mais quand le Cohen Gadol sortait du côté de Beth Amikdash après avoir fait la Avoda, c'était une explosion de Simcha incroyable. Oh, c'était terrible, un cortège de joie, etc. Parce qu'il revenait en général avec le fait que, bon, Hachem a pardonné. Mais cette joie énorme, joie qui peut pas se manifester tant que, d'une certaine manière, il n'a pas fait tout le travail. Et la fameuse languette qui était censée nous dire si Hachem a pardonné ou pas, on ne sait pas, elle n'a pas encore viré sa couleur. Et dès qu'elle a viré la couleur, et dans le bon sens, c'est la grande surprise, c'est la grande joie. Bon, alors, évidemment, ça a dégénéré aussi au deuxième Beth Amikdash, avec des Kohanim Gdolim qui n'étaient pas à la hauteur et qui mouraient, etc. Parce qu'ils achetaient les charges. Il faut pas éviter que les choses, souvent, elles sont dévoyées, quoi, et qui aurait dû, ce qui devait être une grande chose, devient une chose détestable. D'une certaine manière, c'est aussi un Yom Tov parce que c'est Matan Torah. À Yom Kippour, on a reçu les tables de la loi, on a reçu, c'est une espèce de réception de la Torah. Il y a des drachot sur les psukim qui disent de Kippour, c'est Matan Torah.
Mais si l'homme ne fait pas teshuva, en quoi ça peut être un Yom Tov?
Ben, si quoi, si?
Si l'homme ne fait pas teshuva, en quoi ça peut être un Yom Tov?
Non, s'il fait pas Tchouva, c'est Yom Tov, Kippour est un Yom Tov. Maintenant, on peut être Mechalel le Yom Tov. Si on ne fait pas Tchouva, c'est comme si on était Mechalel, on profanait le Yom Kippour, qui est fait pour faire Tchouva. Comme dit Rambam, toute l'année, tu veux faire Tchouva, c'est dire il faut faire bidouille. Mais à Kippour, tu es obligé de faire Tchouva. C'est une obligation, c'est une. Là, du coup, c'est une mitzvah. Toute l'année, c'est la Tchouva pas une mitzvah, mais ce jour-là, c'est un jour où c'est une mitzvah de faire Tchouva. Obligé, ça veut dire de faire Tchouva. Alors effectivement, il y a toujours des gens qui ne font pas les choses, mais ça ne va pas changer le jour. Jour et un jour de fête. Si quelqu'un aimera le Shabbat, le Shabbat, il reste au Shabbat. Pour lui, c'est plus Shabbat. Mais enfin, il est responsable quand même. Mais bon, il vit pas ça, il vit pas le Shabbat comme on doit le vivre. Ça, on peut pas l'empêcher. Alors évidemment, le Kippour, pour nous, il vient après Aseret Yemei Teshuvah. Il vient après 10 jours consacrés à un travail de Teshuvah. Pourquoi 10 jours? Quand Moshe Rabbeinu est allé discuter avec Hachem pour qu'Hachem pardonne, Hachem était intraitable. Il a fallu que Moshe Rabbeinu monte et remonte sur le Sinaï pour discuter, pour argumenter. Comme on sait, il a réussi finalement. Mais il y a des Midrashim qui disent que c'était toujours non, absolument non. Mais que 10 jours avant, c'est-à-dire Rosh Hashanah, les choses ont commencé à bouger un peu. Certains disent que c'est pour ça que c'est Rosh Hashanah. Yomadine. On est obligé de dire quelque chose de ce genre-là, parce que je vous ai expliqué Rosh Hashanah comme étant un Yomadine parce que c'est l'anniversaire de la naissance de l'homme. Mais ça, ce n'est vrai que pour Rabbi Eliezer. Il y a une marloquette dans la Gemara si le monde a été créé en automne ou au printemps. Est-ce que le monde a été créé en Tishri? Ouais, en Elul, si vous voulez. Et l'homme créé en Tishri, le premier Tishri. Ou est-ce que le monde a été créé en Nissan? Et si le monde a été créé en Nissan, alors Rosh Hashanah n'est pas le jour de la naissance de l'homme. Et par conséquent, c'est pas ça la raison pour laquelle on est jugé. Yom HaDin. Si on dit que ça a bougé à partir de 10 jours avant Kippour, alors Rosh Hashanah, c'est 10 jours avant Kippour. Rosh Hashanah Yom HaDin, parce que le grand din, c'est Yom Kippour, celui qui est écrit dans la Torah comme tel. Mais 10 jours avant, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ce qui nous permet de dire que Rosh Hashanah, qui est ce jour-là, est un Yom HaDin. Compris pour Rabbi Yoshua. Voilà, on va s'arrêter là.